enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Dans chaque vie, il y a toujours des obligations. Et si on se met à faire le compte, dans une journée, de tout ce qui est obligé, ben des fois ça fait beaucoup. Hein. Peut-être qu'il vaut mieux pas faire le compte. Hein. Par exemple, ce matin, vous êtes réveillé, ben vous étiez dans l'obligation de vous lever. Pour quelques-uns, c'est une obligation, hein, non? D'autres, peut-être à un moment dans la journée, vous étiez tranquille, vous dites, ah, maintenant je vais me relaxer un peu, ah, le téléphone. Obligé de répondre. Et puis, peut-être, suivant qui c'est au bout du fil, ben, c'est plus ou moins, ah, belle maman, bonjour, ça me fait plaisir. Hein? Et puis après, on est obligé de, je sais pas, il arrive un plat de purée qu'on sait d'avance qui sera trop salé, mais il faut quand même en manger quand même, une part. Et puis après, arrive le dessert, on est obligé d'en manger une part. Là, on aurait bien aimé en prendre deux, mais on en mange qu'une. Enfin, il y a des obligations comme ça tout le temps. Vous êtes venu, vous avez pris la voiture. Vous êtes sorti de, je sais pas, du lotissement, il y a un petit bout de 20 mètres qui fait qu'on va tout droit, mais il y a un sens interdit, alors on est obligé de faire tout le tour, c'est une obligation. Et puis après vous êtes arrivé ici, vous vouliez parler avec quelqu'un, et quelqu'un est monté sur la strade, il a dit maintenant est-ce que vous allez vous taire ou non hein? Alors vous avez été encore dans l'obligation de vous taire, et maintenant vous êtes dans l'obligation de m'écouter, et ça va durer un bon moment. Donc, est-ce que Dieu a prévu une vie qui est pleine comme ça, plein d'ennuis, plein d'obligations, ou est-ce que Dieu est aussi le Dieu qui a créé la liberté? Et je crois que Dieu a créé la liberté. Mais je crois que justement la liberté, c'est pas la capacité de faire tout ce qu'on veut n'importe quand. Et la liberté, c'est quelque chose de spécial. Et quelquefois, parce que Dieu aime que nous soyons libres, alors quelquefois, il nous met devant des difficultés devant. Et est-ce que vous vous rappelez d'un moment où dans l'évangile on dit expressément que Jésus a mis les disciples dans une obligation? Vous rappelez ça? Allez, on fait un petit quiz comme ça, hein, sans entendre des questions, des tests. Est-ce que quelqu'un se rappelle d'un passage où Jésus, ça résonne un peu, hein, mais bon, c'est pas, en tout cas ici, quoi, hein, mais où Jésus a mis les disciples dans une obligation, non? Personne ne se souvient? Hein? Il les a obligés à aller de l'autre bord. Voilà, c'est sûrement ce passage que pense notre frère. Bonjour, tu vas bien? Ça fait plaisir de te voir. Alors, on va lire ça dans Marc. Marc 6, 45. Ah, c'est un texte que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup prêcher sur ce passage. D'ailleurs, Claude l'avait pressenti puisqu'il a parlé tout à l'heure de tempête, hein, des disciples dans la tempête. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce passage. Marc 6, 45. Ah, oh, ben il est déjà là, voilà. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque. Vous voyez, là, il les a obligés. Et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il eut renvoyé la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, ici c'est le lac de Galilée, hein, et Jésus était seul à terre. Hein. Et Jésus vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, parce que le vent leur était contraire. Hein. À la quatrième veille de la nuit, environ, disons, 3 heures du matin, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Il semblait qu'il voulait passer plus loin, les dépasser. Encore. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris. Car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla. Il leur dit, rassurez-vous les gars, c'est moi, n'ayez pas peur. Et puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils étaient en eux-mêmes tous stupéfaits, ébahis, remplis d'étonnement. Parce qu'ils n'avaient pas encore compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci comme le nôtre ce soir ne l'est pas. Et vous avez eu peur, hein? Alors, j'aime beaucoup cette histoire parce qu'elle contient énormément, énormément de choses très, très, très intéressantes. D'abord, hein, le tout début, c'est Jésus les obligea. Et moi, en général, et même toujours, je crois, j'aime pas être obligé. J'aime bien faire ce que j'ai envie de faire. Et par définition, une obligation, c'est quelque chose qu'on n'avait pas envie de faire. Quand vous appelez un enfant pour lui donner un bonbon, vous l'obligez pas. Vous dites, tiens, viens prendre un bonbon, mais on l'oblige pas. Mais si on doit l'obliger à ne pas ouvrir le placard, alors ça, c'est une obligation. Et si Jésus les a obligés, c'est parce qu'il voulait pas. Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas? Mais juste avant, il les obligea, il y a un petit mot. C'est écrit aussitôt après. Et si l'évangéliste s'est donné la peine d'écrire aussitôt après, c'est que ça a un sens. C'est que cette histoire-là, elle a un sens après une autre histoire qui a eu lieu avant. Et qu'est-ce qui a eu lieu juste avant? Vous vous rappelez? Ouais, bah, tout le monde sait ça, hein. Bien sûr, je rappelle juste pour mémoire, comme ça, pour ceux qui écoutent sur le net, qui savent pas tout. Et donc, aussitôt après, c'est-à-dire aussitôt après la multiplication des pains. Dans la journée, Jésus était face à une foule immense, des milliers de personnes qui n'avaient pas prévu de quoi manger, qui étaient là seules comme des brebis dans un désert. Et Jésus a multiplié du pain. Jésus leur a donné du pain pour tous. Ils ont mangé, comme on disait au Tchad, ils ont mangé fatigués. Ils étaient repus. Et si vous imaginez une journée comme ça, imaginez que nous ayons aujourd'hui passé une telle journée avec Jésus. Mais est-ce qu'on aurait envie de le quitter? Est-ce qu'on aurait envie de se séparer? On dirait, ah ben ouais, c'était une bonne journée, ciao, bye, allez, allez, à plus. Mais non, quand on a passé une journée comme ça, miraculeuse, extraordinaire, surnaturelle, le ciel sur la terre, avec Jésus, mais on veut pas le quitter, on veut pas se séparer. Et voilà que Jésus leur dit quelque chose qui les surprend, qu'ils n'avaient pas envie d'entendre. Jésus leur dit, écoutez, bon, les gars, ce soir, on va faire un peu, on fait pas comme d'habitude, hein. Alors, moi, je vais rester là, je vais aller prier. Vous, prenez, tiens, il y a une barque. Prenez la barque, montez, traversez, et je vous rejoindrai plus tard. Oh, les disciples ont dit, non, tu vois, non, 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 on reste avec toi. Non, Jésus dit, montez dans la barque, vous traversez, je vous rejoins plus tard. Ils ont dit, non, Jésus dit, vous prenez la barque, c'est ce qui est écrit. Il les obligea. C'est qu'ils ne voulaient pas. Et ils sont partis quand même. Un peu. Alors ils sont partis. Et voilà que, concours de circonstances, mais Dieu aime beaucoup les concours de circonstances, il gagne tous les concours de circonstances. Voilà que, cette nuit-là, eh bien, il est arrivé une tempête. Et les disciples étaient. On dit la mer, c'est le lac de Galilée, il fait quand même une douzaine de kilomètres de large, hein. Et ils étaient incapables d'avancer, de reculer, ils ramaient dans un sens, dans l'autre, et le vent leur était contraire. J'ai l'impression que quand ils voulaient aller d'un côté, le vent était contraire, s'ils retournaient de l'autre, le vent était quand même contraire aussi. Enfin, c'était 3 heures du matin, ils étaient encore au milieu du lac. Et on ne dit pas qu'ils étaient en danger, le texte ne dit pas qu'ils étaient en danger de mourir, mais en tout cas, ils avaient passé des heures pour rien. Et là, ils étaient dans cette situation. Et, bien sûr, hein, le miracle extraordinaire de cette scène, ben, c'est Jésus qui marche sur l'eau. Ça, c'est, je sais pas, c'est grandiose, hein. C'est les trucs que j'aurais le plus aimé voir, hein. C'est une des premières cassettes que je regarderais quand je serais arrivé au ciel. Mais avant que Jésus ait marché sur l'eau, le texte parle déjà d'un autre miracle. Est-ce que vous avez vu ce miracle? Il y a dans ce texte un autre miracle, hein. Est-ce que vous avez vu ce miracle? Parce que des fois, c'est dommage de passer à côté des miracles. Des fois, on appelle des petits miracles, mais petits ou grands miracles, c'est toujours des miracles quand même, hein. Il y a un autre miracle un peu avant, non? Qui c'est qui a vu l'autre miracle? Hein? Avant que Jésus marche sur l'eau. Un autre miracle. Oh, c'est écrit très rapidement, hein? C'est un petit mot, hein? Un tout petit mot, très court. Jésus vit. Jésus vit. Jésus vit qu'ils avaient de la peine à ramer. Je vous rappelle que c'est 3 heures du matin, que Jésus est sur le sommet de la montagne, qu'eux, ils sont dans la barque au milieu du lac, que c'est une nuit de tempête, et Jésus vit qu'ils avaient de la peine à ramer. Dites-moi ce que vous voyez si vous êtes au sommet d'une montagne, dans un lac qui est en bas, mais dont la barque se trouve au milieu, c'est-à-dire à 5 ou 6 kilomètres, à 3 heures du matin dans une nuit de tempête. Qu'est-ce que vous voyez dans cette barque? Allez, sincèrement. Hein? Même avec des bonnes jumelles, ben que dalle, parce que c'est pas possible. Mais Jésus vit qu'ils avaient de la peine à ramer. Comme j'aime ce miracle. Moi, j'aime ce miracle. Ça fait partie des miracles des évangiles qui me rassurent le plus. Quoi qu'il arrive, Jésus nous voit. Quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve, quelles que soient les ténèbres, quelle que soit l'oppression, quelle que soit l'opposition, quels que soient nos échecs, quelle que soit la noirceur de l'état dans lequel on est, Jésus nous voit. Un proverbe arabe dit que une fourmi noire sur du marbre noir, dans une pièce noire, Dieu la voit. Et Jésus te voit. Peut-être quelques-uns d'entre nous ont l'impression que, quelque part, Dieu a vraiment pris du recul avec eux. Ils se disent, Dieu est vraiment loin. Dieu s'est éloigné. Mais ce soir, j'aimerais te dire que Jésus te voit. Jésus te voit. Jésus te voit. Jésus te voit. Jésus te voit, Jésus te voit, là où tu en es, là où tu es et là où tu en es, Jésus te voit. Et c'est rassurant parce que ça veut dire que, et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles Jésus a obligé les disciples à passer sans lui, c'est qu'ils devaient se rendre compte que la présence de Jésus avec eux, la bénédiction de Dieu dans leur vie, ne devait pas être liée à leur perception, à leur sens. C'est pas parce qu'ils le voyaient ou qu'ils le voyaient pas que Jésus était plus ou moins capable de les aider, de les bénir, de les secourir, que nous le voyons ou pas, que nous le ressentions ou pas. Dieu reste Dieu, Jésus te voit et pourvoit à tes besoins, il reste ce qu'il est, c'est-à-dire ton grand frère, qui te veut du bien et qui veille sur toi et qu'aucune circonstance ne rendra jamais incapable de te délivrer et de te bénir. Je crois qu'il y a trop de chrétiens qui sont encore à ce stade où, lorsque Jésus les fait traverser et qu'ils ont l'impression qu'il n'est pas monté dans la barque là tout de suite, alors ils sont paniqués. Ils dépendent de leurs sens. Ils dépendent de leurs impressions. Ils sont rassurés quand ils ressentent. Ah, il y en a qui marchent à la sensation. Alors, de temps en temps, il faut que ce soit une espèce de courant électrique qui part de là, qui... Alors là, quand ils l'ont senti, ah, Dieu était là. Ouais, ben, écoute, même quand il y a une panne de courant, Dieu est là aussi. Dieu est là. Ne faisons pas l'erreur d'être lié à du ressenti. La foi ne marche pas sur ça. Et les disciples avaient besoin d'apprendre. Quand ils ont vu qu'ils étaient dans cette situation, que Jésus n'était pas là, et qu'ils ne s'en sortaient pas, ils ramaient à gauche, à droite, je suis sûr qu'entre eux, ils se sont redits, tu vois, je te l'avais dit, on n'aurait pas dû partir, si seulement il était là, tu vois, là maintenant, hein, tu vois, les galères dans lesquelles on est, hein, incroyable, on n'aurait pas dû. Hein. Mais ça leur a permis de vivre quelque chose d'extraordinaire. Et ça, si ce soir, vous pouvez juste déjà gardez de ce petit tour que nous faisons dans cet épisode, gardez juste cet élément, que Jésus te voit toujours et ne te perd jamais, jamais, jamais de vue. Ça, c'est quelque chose de vraiment précieux. Là, si j'ai pu mettre ça dans le cœur de chacun ce soir, ben, honnêtement, j'ai pas perdu mon temps. Ben ça, c'est précieux. Ça, c'est la force dans la vie de tous les jours. Alors après, bien sûr, à 3h du matin, quand ils l'ont vu marcher sur l'eau, ça devait être étonnant. Hein. Bien sûr, nous, ça nous fait un peu sourire, des grands gaillards comme ça, des grands garçons dans leur barque qui commençaient à crier « Oh, mon fantôme !» Bien sûr, nous, ça nous fait un peu sourire. Forcément, il fait jour, on est assis sur des chaises tranquilles et puis tout va bien, quoi. Mais essayez d'imaginer un petit peu que vous êtes dans une barque la nuit et puis que vous voyez une espèce de forme qui ressemble plus ou moins à quelqu'un, à l'ombre de quelqu'un, planté debout sur l'eau. Vous savez qu'en dessous, il y a peut-être 200 mètres de fond, 300 mètres, est-ce que je sais, et qui marche comme ça et qui a l'air de venir vers vous. Je sais pas si tout le monde va pas commencer un petit peu les chocottes un peu quand même, Là, on rigole moins, là, après, Alors, eux, dans leur culture, ils ont dit fantôme, mais... Et je crois que c'est avec un sourire que Jésus leur a dit, les gars, c'est moi. N'ayez pas peur, je suis là. Alors, bon, ils l'ont bien regardé, comme ça. Ils étaient à moitié rassurés. Et une des premières choses que Jésus fait quand il intervient dans nos vies, quand nous avons été troublés, c'est ce qui revient dans la Bible, je ne sais combien de fois, c'est « N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'aie pas peur de Dieu. N'aie pas peur de Dieu. Ne crains pas Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu veut ton bien. Si tu es là ce soir, c'est parce que Dieu t'aime. C'est parce que Dieu est bon. C'est parce que Dieu cherche le chemin de ton cœur. Peut-être que tu es là depuis longtemps, mais Dieu cherche encore le chemin de ton cœur. Dieu veut te trouver. N'aie pas peur de ce que Dieu va te dire. N'aie pas peur de ce que Dieu va faire dans ta vie. Ça va sûrement bouleverser beaucoup de choses. Mais c'est bien pour toi. N'aie pas peur. Jésus leur a dit, c'est moi. Rassurez-vous, n'ayez pas peur. Et puis alors, le troisième miracle est arrivé rapidement. C'est qu'au moment où Jésus est monté dans la barque, et ça a dû les surprendre peut-être encore plus encore, c'est qu'au moment où Jésus est monté dans la barque, hop, il a enjambé la barque, il est monté dans la barque, à l'instant, le vent s'est arrêté. Dans la seconde qui précédait, le vent soufflait, la barque tanguait d'un côté à l'autre, peut-être qu'ils étaient obligés d'écoper, peut-être qu'ils étaient obligés de se cramponner. Le vent leur soufflait aux oreilles. Et puis au moment où Jésus est monté dans la barque, tout s'arrête, instantanément comme ça. Vous savez, ça fait un coup aussi, Là, ça les a saisis. Ils l'ont regardé, ils se sont dit, mais c'est qui? Bien sûr, ils savent que c'est Jésus de Nazareth. Même toi, ce soir, tu sais, Jésus de Nazareth, bien sûr. Mais quelle perception avons-nous de ce Jésus de Nazareth? Jésus de Nazareth, c'est qui pour nous? C'est qui dans notre vie? C'est qui dans notre barque? Est-ce que nous sommes encore surpris, étonnés, voire même quelquefois inquiets quand nous le voyons mettre en route son programme dans notre vie? Mais ils ont dû apprendre, ils étaient remplis d'étonnement. Et le dernier verset que nous avons lu dit qu'ils n'avaient pas tiré les leçons de ce qu'ils avaient compris auparavant. Pourtant, ils auraient dû. Dans la journée même, la veille, ils avaient vu Jésus nourrir une foule avec des milliers de personnes, avec quelques pains. Et ça aurait dû les frapper, ça aurait dû leur donner cette leçon que Jésus est toujours capable de prendre soin de ses enfants, qu'il est toujours capable de prendre soin de ses disciples, qu'il est toujours capable de veiller sur eux, de les garder, de les protéger. Mais ils n'ont pas tiré parti de cette leçon, ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Souvent, on pense que le manque de foi, c'est un peu... Bon, c'est dommage, mais quelquefois, je trouve qu'on s'en excuse facilement. On se dit, écoutez, on n'avait pas trop... J'avais pas compris, mais le texte ne va pas tout à fait dans ce sens-là. Il dit que ce manque de foi leur était imputable. Il dit pas seulement qu'ils n'avaient pas compris. Si on dit seulement qu'on n'avait pas compris, qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un dit, moi, j'ai pas compris, Mais ils n'avaient pas compris parce que leur cœur était endurci. Et ça, endurci, ça c'est une responsabilité morale. Ça, c'est pas seulement comme s'il nous manquait une faculté. On va pas encore accuser Dieu maintenant d'avoir le cœur endurci. Si notre cœur est endurci, c'est parce que nous avons suffisamment marché dessus pour qu'il devienne dur. Naturellement, il n'était pas très dur. Mais si on l'a bien piétiné, alors il est devenu dur comme un chemin dur. Mais c'est notre responsabilité. Reste maintenant à nous de le labourer, de le retourner, de tourner la terre, d'enlever les cailloux et de le rendre meuble pour que la semence puisse pénétrer dedans. Moi, j'aime bien ce texte. Et il se trouve dans... il y a trois évangélistes ont raconté cette scène. Alors, ils l'ont chacun raconté comme ils l'ont connu, comme ils l'ont vécu, avec les renseignements qu'ils ont eus, etc. Et donc, chacun a rajouté des choses un petit peu ici et là. Et je trouve que c'est des fois intéressant de comparer comme ça un peu. Est-ce que ça vous ennuie si je vous le relis dans l'évangile de Jean? Hein? Merci. Donc, Jean 6, c'est bien, merci, ça fait plaisir. Super. Jean 6, parce qu'on a déjà vu trois miracles, mais il y en a encore d'autres dans cet épisode. Hein. Jean 6, 16. Jean 6, 16. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent. La mer était agitée. Après avoir ramé environ 5 ou 6 kilomètres, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Est-ce que vous avez vu quelque chose d'un peu différent dans ce texte, hein? Hein, dans l'autre, on a déjà vu trois miracles. Hein? Jésus les a vus dans le noir, il a marché sur l'eau, et le vent s'est arrêté aussitôt qu'il est monté dans la barque. Mais là, dans ce texte-là, il y avait un quatrième miracle. Vous avez vu? Hein? Vous avez vu? Aussitôt, quand Jésus monta dans la barque, aussitôt, la barque aborda au lieu où ils allaient. Pourquoi c'est un miracle? C'est un miracle parce que l'instant d'avant, on nous a dit qu'ils étaient au milieu de la mer. Ça va, vous suivez? Dans Marc, on nous a dit qu'ils étaient au milieu de la mer. Ici, on précise bien qu'ils avaient fait 5 ou 6 kilomètres, ça fait 10, 12 kilomètres de large. Ils étaient au milieu de la mer. Mais au moment où Jésus est monté dans la barque, alors la barque a abouti contre l'autre rive. C'est-à-dire qu'instantanément, au moment où Jésus a franchi le bord de la barque pour monter dedans, au moment où il est monté dedans, la proue, pouf, a touché le bord, hop, ils étaient arrivés. Mais la seconde d'avant, ou la milliseconde d'avant, ils étaient au milieu du lac. C'est-à-dire qu'ils ont fait instantanément, on peut même pas dire en une seconde, c'est déjà beaucoup trop. Ils ont fait instantanément la barque avec tous les bonhommes qu'il y avait dedans, et les agrès et tout le chargement, ils ont fait instantanément 5-6 kilomètres. Ils sont arrivés au bord. Vous voyez, des petits miracles comme ça, des fois, on lit la Bible, puis des fois, on les voit pas. Mais ça, c'est pas miraculeux. Vous voudriez pas être transporté comme ça, hein, avec la hausse du pétrole? Eh ben, dis donc, hein? On voudrait bien être transporté comme ça. On monterait dans sa voiture, on ferme la porte, on dit, vous avez bien mis vos ceintures, pouf, et on est dans le parking. Ça, c'est un truc, hein. Il y en a qui vont prier pour ça, je pense, hein, déjà, hein. Mais ça, c'est extraordinaire. C'est arrivé 2 ou 3 fois dans la Bible. C'est pas le seul cas. Vous vous rappelez, bon, c'est l'épisode connu, tellement fameux, de Philippe qui était en train de baptiser un Africain. Et au moment où il sortait de l'eau, tout d'un coup, il a disparu. Ils étaient ensemble, face à face. Et voilà que, imaginez, vous discutez avec quelqu'un, comme ça, face à face, vous lui parlez, tout d'un coup, toc, il est plus là. Ça fait drôle, hein? Mais c'est ce qui est arrivé à Philippe. tout d'un coup, il était en train de discuter avec cet Africain qu'il avait baptisé, et instantanément, il avait disparu, et Dieu l'avait envoyé sur un autre chemin. Comme ça, il poursuivait son œuvre d'évangélisation, et il a évangélisé tous les... l'Africain. Mais ça a dû faire drôle pour les deux, hein. On pense toujours que pour l'Africain, c'était drôle de voir que tout d'un coup, Philippe avait disparu. Mais pour Philippe, qui s'est retrouvé tout d'un coup ailleurs que là où il croyait, c'est marrant aussi quand même, hein. Imaginez, il se retrouve sur un chemin, il ne sait pas où il est. Parce qu'il est transporté comme ça, hein, pas sans GPS. Il arrive comme ça sur un chemin. Il a dû arrêter le premier quidam qui passait. Il dit, excusez-moi, monsieur, puis-je savoir où nous sommes? Ah, ça fait marrant. Élie était transporté quelquefois comme ça. Dieu le prenait, le mettait ailleurs. Et pendant que ses ennemis pensaient avoir mis la main dessus, ça y est, ils l'ont encerclé, il est bulin. Il était ailleurs. Et une autre fois, pareil, comme ça. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui limite la puissance, la gloire, les capacités, le potentiel de notre Dieu? Rien n'est trop difficile pour lui. Dieu peut nous faire arriver à notre but. Vous voyez, et ce miracle est pas... Aucun miracle n'est arbitraire, hein. Dieu ne fait jamais des miracles comme ça, simplement pour, de temps en temps, pour rappeler qui il est. Chaque miracle a une portée et un contenu pédagogique. Et ce contenu ici, symbolique, il est très clair, il est transparent. C'est que quand Jésus monte dans la barque de ta vie, tu es arrivé. Tu es arrivé. Ça ne veut pas dire que ta vie est finie. Non, plusieurs vont vivre encore plusieurs jours. Mais ça veut pas dire que notre vie est finie. Ça veut dire que son véritable but est atteint. Parce que le but de notre vie, c'est de contenir Jésus. Le but de notre vie, c'est que Dieu vienne demeurer en nous. C'est ça le but de notre vie. Alors bien sûr, Dieu va nous laisser sur cette terre pendant quelque temps, mais c'est pour parfaire cette condition. C'est pour perfectionner cette relation que nous avons avec lui. Mais le but est atteint, c'est ça le but. Quand Jésus est monté dans leur barque, alors la barque a atteint le bord. Quand tu laisses Jésus monter dans la barque de ta vie, tu es arrivé au but pour lequel Dieu t'a créé. Est-ce que Dieu est dans la barque de ta vie aujourd'hui? Est-ce que Dieu dirige ta vie? Est-ce que tu es simplement dans la barque puis tu le regardes passer? Vous avez vu dans le texte, dans l'évangile précédent, dans Marc, vous avez vu Jésus, ça paraît curieux, Jésus marchait sur l'eau et le texte dit il semblait les dépasser, comme si son but n'était pas de les rejoindre, comme si son but c'était simplement que lui voulait traverser, il n'avait pas de barque, donc il traversait à pied. Mais Jésus passe souvent à côté de la barque de la vie de quelqu'un et il ne veut pas s'imposer, il ne veut pas te mettre dans l'obligation de le recevoir. Tu peux le regarder passer. Et si les disciples n'avaient pas interpellé, s'ils n'avaient pas invité à monter dans la barque, ils seraient passés. Parce qu'ils ne t'obligent pas, ils ne vont obliger personne. Dieu dit, choisis. Choisis. Dieu dit, je t'en supplie. Choisis bien. Mais Dieu te laisse choisir. Dieu a inventé la liberté. Dieu a inventé le choix. Dieu a inventé la libre décision et il en a fait cadeau à l'homme. Et ce soir, il te met devant cette liberté. Beaucoup de gens qui sont tellement des fanats de liberté, qui réclament tellement la liberté, sont prêts à reprocher à Dieu de nous avoir créés libres, paradoxalement. Beaucoup de gens disent, mais pourquoi Dieu ne nous a pas fait incapables de pécher? C'est-à-dire, pourquoi Dieu n'a pas fait de nous des esclaves? Mais non, Dieu a inventé la liberté. Dieu nous a fait libres. Choisis ce soir. Dieu t'obligera pas. Plusieurs ce soir. Vous avez déjà plusieurs fois vu passer Jésus dans votre vie. Vous l'avez vu passer tout près de vous. Il a côtoyé votre barque. Vous avez vu son regard. Vous avez entendu sa voix. Mais vous ne l'avez pas invité à monter. Alors il est passé. Il est passé. Et je crois qu'il a jeté sur toi un regard d'amour et un regard triste. Mais il est passé. Et dans sa grâce, il est passé une autre fois encore. Et tu sais que Jésus est là, qu'il est tout près. Et peut-être ce soir, tu sais que Jésus est là. Il passe. Tu sens son regard sur toi. Mais il ne va pas fracasser la porte de ton cœur. Il ne va pas t'obliger. Il ne va pas faire irruption. Il a dit dans l'Apocalypse, c'est juste un verset sur l'Apocalypse, un seul. Il a dit dans l'Apocalypse, je frappe à la porte d'un cœur. Si quelqu'un entend et ouvre la porte, alors j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui et lui avec moi. Mais il dit, si quelqu'un entend et ouvre la porte. Jésus a la puissance de fracasser la porte. Il peut frapper d'une façon très vigoureuse. Et puis, si ça vient pas assez vite, allez, paf, il enfonce la porte. Il dit alors, les gars. Non, c'est pas comme ça. Non, Jésus frappe. Jésus frappe. Il dit, si quelqu'un entend et ouvre, alors on va manger ensemble. C'est l'intimité, c'est sympa, c'est relationnel. Ce soir, maintenant peut-être, Jésus passe à côté de toi. Il frappe à la porte de ton cœur. Il y a des gens qui disent, moi si Dieu se démontre, ils aimeraient que Dieu les soumette au traitement du Mont Sinaï, vous voyez. Il y en a qui attendent ça. Moi, le jour où j'entendrai les trompettes du haut du ciel, quand je verrai la montagne fumante, hein, quand le sol tremblera sous mes pieds, mais Jésus va pas le refaire pour toi. Alors ça, excuse-moi, mais ça va pas marcher. Non, il passe à côté. Il frappe délicatement à la porte de ton cœur. Ce soir, si tu veux, tu lui dis de monter dans la barque. Alors il monte. Est-ce qu'on peut lire encore le même texte dans Matthieu? Matthieu 14, on lit à partir du verset 26, voilà, on n'est pas obligé de tout lire, 26, parce que Matthieu raconte encore quelque chose de différent. Quand les disciples virent Jésus qui marchait sur la mer, ils furent troublés, ils dirent c'est un fantôme, mais dans leur frayeur ils poussèrent des cris. Mais Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et voilà ce qui est nouveau dans ce texte par rapport aux deux autres. Pierre lui répondit, alors, Seigneur, si c'est toi, ordonne que moi aussi j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens. Alors Pierre sortit de la barque, il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais comme il voyait que le vent était fort, il a eu peur. Et il commençait à s'enfoncer. Alors il s'est écrié, Seigneur, sauve-moi! Encore après? Ah, ça marche plus, ça fait rien. Ah voilà. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? On reviendra sur ça tout à l'heure. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Voilà, Matthieu, pourquoi les autres ne l'ont pas raconté? Parce qu'ils n'avaient peut-être pas les renseignements suffisamment, comme on pourrait dire, de première main, suffisamment précises. Donc ils ont chacun raconté ce qui leur était, ce qui était le plus sûr, ce qu'ils connaissaient absolument. Mais Matthieu connaissait ça de façon précise. Alors il a raconté que Pierre lui-même, et ça c'est bien le caractère de Pierre qu'on connaît. Ça c'est le Pierre des évangiles qu'on connaît, c'est un battant comme ça, une locomotive, lui il voit des trucs, avant de réfléchir, il fonce, il réfléchit un moment après, il regrette, bon, mais voilà, c'est le type qui fonce comme ça. Quand il a vu que Jésus marchait sur l'eau, il se dit, mais ça c'est quand même extraordinaire, voilà un monsieur qui est fait comme moi. Il est fait comme moi. On a marché ensemble, mangé ensemble, on a ramé ensemble, on a travaillé ensemble, on a tout fait ensemble. Et voilà que quelqu'un comme lui, on le pose sur la mer, il tient. Et pourquoi moi je tiendrais pas alors? Et il dit à Jésus, et moi alors? Mais Jésus lui dit, viens. Ça, moi j'aime ça. Vous voyez, des gens comme ça, l'Église en a besoin. On a besoin des types comme Jean, intérieur, tout ça. Mais on a besoin des gens comme ça aussi. On a besoin des gens qui ont envie de foncer, de bousculer, de dépasser, de réfléchir un peu après, tout ça. Jésus lui dit, viens. Ah, du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à y aller, quoi. Des fois, on demande des choses à Dieu, puis quand on est exaucé, on est vachement embêté, Parce qu'après, il faut le faire. On demande, mais après, il faut y aller. Alors Pierre, eh ben, il a dû se dire, ben, faut y aller, quoi. Il a enjambé la barque. Il devait essayer de quand même regarder un peu dessous pour voir si ça tient, quand même. Hein. Et tant qu'on tient le bord, ça va. Tant que vous tenez, c'est comme s'il y en a qui ont fait. Est-ce qu'il y en a qui ont fait du patin à glace? Hein? Que vous faites du patin à glace, c'est exactement ça. La première fois, vous faites le tour et vous lâchez pas la machine, la rampe. Hein? Si vous commencez à lâcher la rampe, alors là c'est le naufrage. Alors Pierre était là et puis il sentait quand même que c'était solide sous ses pieds. Et à un moment il a lâché. Il regardait Jésus droit devant lui. Il a commencé à marcher et il marchait sur l'eau. Il marchait sur l'eau. Il marchait sur l'eau. Et rappelez-vous une chose, hein, que là, c'est dans la tempête. La tempête n'était pas calmée à ce moment-là. La tempête s'est calmée quand Jésus lui-même, lui, est rentré dans la barque. C'est-à-dire que Jésus lui-même, quand Jésus marchait sur l'eau, et quand Pierre a marché sur l'eau, c'est dans la tempête. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en train de marcher sur l'eau d'une piscine. Ils étaient en train, ils marchaient pas sur une flaque d'eau, ils marchaient sur de l'eau avec des vagues comme ça qui montaient et qui redescendaient. Alors ils montaient, ils redescendaient, les autres dans la barque les regardaient, je te vois plus. Et ils montaient comme ça, ils redescendaient. Et Pierre était là comme ça, et il allait vers Jésus. Des fois il y avait de l'écume, il ne voyait plus, il le revoyait. Et quand il a été un peu loin de la barque, il a regardé autour de lui, ça souffle, hein. Et il a vu qu'il était dans une situation vraiment surréaliste, bizarre. Comme il regardait plus à Jésus, il y redevenait simplement Monsieur Pierre. Alors, comme il était naturel, tous les gens naturels qu'on met sur de l'eau, ils s'enfoncent. Hein. Alors, il a commencé à s'enfoncer. Et là, Pierre a eu un bon réflexe, un réflexe spirituel. Il n'a pas crié vers les gars dans la barque, il n'a pas appelé ses copains. « Eh, les gars, envoyez-moi une corde !» Il a crié à Jésus. Il a regardé à Jésus, il a dit « Jésus, au secours ! Jésus, au secours !» Et quand tu commences à marcher avec Jésus, eh bien ça te fait faire des choses des fois étonnantes, des choses qui te mettent dans des situations un peu surréalistes, un peu bizarres. Les gens autour de toi disent « Tu es sûr que tu... » Mais Jésus est avec toi. Et même si des fois on fait des bêtises, même si des fois on est faible, même si on est limité, même si on n'a pas toujours toute la foi qu'on croyait avoir quand on a prié, mais Jésus est là pour nous aider, il est là pour nous secourir, il est là pour nous tendre la main, il est là pour nous relever, il est là pour nous sortir de notre pétrin. Et Jésus a tendu la main et Jésus l'a secouru, il l'a relevé. Après, quand on a lu le dernier verset, Jésus lui dit, homme de peu de foi, pourquoi tu doutais? Ça, j'aime bien me demander comment... Comment vous entendez cette phrase? Parce que dans toute la Bible, ce qu'on entend dans la Bible, on l'entend avec une certaine perception personnelle. Bien sûr, le texte, c'est seulement un texte écrit. Donc le ton n'est pas écrit. Et suivant avec le ton avec lequel vous dites une phrase ou un mot, ça peut être un mot gentil, et puis à la limite, ça peut des fois être cinglant, ça peut être difficile. Tout dépend du ton. Comment est-ce que vous entendez Jésus faire cette remarque à Pierre? Il y a plusieurs façons de le dire. Hein. Il y a des gens peut-être qui imaginent, je ne sais pas. On peut souvent quand on le lit de manière le ton sans ton, hein? Comme si on lisait à quelqu'un un numéro dans l'annuaire, quoi. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté, Pierre, etc. Voilà, comme ça, on se mouille pas, on n'en sait rien, quoi. Mais moi, j'essaye de me demander comment il l'a dit. Il a dit quoi? Alors peut-être qu'il y en a qui pensent que Jésus a dit, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Oui, je ne sais pas, peut-être quelqu'un pense que Jésus l'a dit comme ça. Moi je ne l'entends pas comme ça. Moi je l'entends avec ce ton de Jésus qui dit, ah, c'est dommage, pourquoi tu doutais? C'est dommage, t'avais fait l'aller, on pouvait faire l'aller le retour ensemble. Ah, c'est dommage. Et Jésus nous parle comme ça. Même si il est toujours vrai. Alors parce qu'il est toujours vrai, il nous pointe nos défauts. Il nous pointe nos faiblesses. Il met quelquefois le doigt à l'endroit où ça fait mal. Quand quelqu'un s'est fracturé fait une fracture. Alors, dans les secours, on cherche un endroit, l'endroit où on trouve extérieurement le point de fracture. Alors, ça s'appelle le point exquis. Le point exquis. C'est-à-dire, c'est l'endroit où ça fait le plus mal. Oui, c'est le point exquis. Mais Jésus met souvent le doigt sur le point exquis. Il nous montre pourquoi derrière nos apparences religieuses, en fait, nous avions de l'incrédulité, de la peur, une perte de confiance en lui. Nous nous sommes décentrés de lui. Nous sommes partis dans toutes sortes d'activités, de choses. Et finalement, il n'était plus dans la ligne de mire. Alors, on a trop entendu le vent qui était contraire. Alors, il est obligé, il faut qu'il nous le redise, c'est normal. Il dit ça, tu vois, ça t'arrive. Parce que tu es un homme de peu de foi. Et à cause de ça, tu as douté. Mais ça nous permet de revenir avec lui dans la barque, main dans la main. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ce soir, j'aimerais vraiment, vous voyez, vous encourager, m'encourager, nous encourager à croire que nous avons en Jésus quelqu'un qui est décidé à veiller sur nous, décidé à nous faire du bien, décidé à nous sortir de notre pétrin, mais qui est décidé aussi et qui aime nous voir expérimenter l'Évangile. Jésus n'a pas voulu apporter un Évangile théorique. C'est pas un principe, c'est pas une doctrine, c'est pas une religion. C'est ce que Jésus veut nous donner, c'est nous faire entrer dans une vie, dans une puissance de vie. Et lorsque Pierre a décidé de sortir de la barque, il a demandé, Jésus lui a pas dit, oh, attends, dis donc Pierre, tu crois que tu as vraiment le niveau pour un truc comme ça là, hein? Il me semble que t'es un peu léger encore, hein? Non, il lui a dit, viens. Il lui a dit, viens. Ce soir, je crois que quelques-uns, vous voyez, c'est paradoxal, mais je crois que pour quelques-uns, il faut que vous devez faire monter Jésus dans la barque de votre vie. Mais d'autres, Jésus attend que vous en sortiez pour aller vers lui, pour marcher sur les eaux, pour marcher sur les vagues, pour marcher sur la tempête, pour aller vers lui, pour expérimenter la foi. Vous savez que Dieu vous a appelé à ça. Vous savez que Dieu vous a pas appelé à chauffer des chaises dans une église ou dans une barque. Vous savez que Dieu vous a appelé à expérimenter la foi. Et je crois que quelques-uns d'entre vous savez maintenant, le Saint-Esprit vous rappelle que vous vous êtes contenté de voyager avec les autres. Mais c'est pas ce que Dieu te demande. Dieu ne s'attend pas seulement à ce que tu voyages en sécurité. Mais il veut te voir mettre l'Évangile en pratique. Est-ce que ce soir, je parle à ceux-là spécialement, est-ce que ce soir, tu es d'accord pour dire, Seigneur, sur ta parole, je vais sortir de la barque. Sur ta parole, je vais faire ce que tu me demandes. Sur ta parole, je vais mettre en action cette puissance de vie que tu as mise en moi. Sur ta parole, je vais avoir confiance en toi. Sur ta parole, je n'aurai plus peur de couler, parce que je sais que tu ne peux pas m'amener dans un piège. Tu vas pas m'amener dans un traquenard. Tu vas m'amener dans une puissance de vie pour que je puisse servir Dieu et que Dieu soit satisfait. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, quelle joie extraordinaire nous avons de pouvoir dépendre d'un sauveur aussi grand, aussi puissant, aussi bienveillant, aussi attentif, aussi divin et aussi humain que Jésus. Merci Seigneur Jésus de nous voir toujours, de ne jamais nous perdre de vue, même lorsque nous faisons des bêtises, même lorsque notre façon de vivre est inconsidéré. Et pourtant, tu veilles sur nous. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Je voudrais spécialement vous encourager. Je voudrais vous encourager à donner toute la place, toute la direction dans votre vie à Jésus. Non seulement pour le recevoir, mais pour marcher avec lui. Pour marcher dans une foi vivante, une foi conquérante. pas pour être spectateur dans la barque, mais pour être acteur sur les flots, avec la puissance de Dieu. Je demanderai à Samuel, s'il veut, après, prier, mais gardons cette... Restons attentifs à ce que l'Esprit veut nous dire.
Amen. Pendant que nous avons nos yeux fermés, je pense que chacun peut faire son propre bilan. Chacun peut, ce soir, se dire, voilà, chez moi, Jésus a passé plusieurs fois à côté. Ou bien je suis en pleine tempête et j'ai le sentiment qu'il est tellement loin qu'il ne me voit plus. Chacun d'entre nous pouvons nous reconnaître dans une situation ou une autre. Le sentiment de ne pas y arriver seul. Le sentiment d'être dans une situation un peu surréaliste, comme cela nous a été dit. Jésus a dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Pas un, pas une seule. Il est là ce soir. S'il a vu les disciples du haut de la montagne, au milieu du lac, combien plus forte raison nous voit-il chacun d'entre nous, où que nous soyons, quelles que soient nos tempêtes, et tous nous pouvons connaître des tempêtes. Elles sont diverses les unes des autres, nous ne pouvons pas nous comparer, nos vies sont différentes, nos tempêtes sont différentes, nos luttes sont différentes, mais Jésus est le même. Il n'est pas seulement la solution pour une sorte de situation, il est la solution, par excellence. Ce soir, je voudrais, alors que nos yeux sont fermés, eh bien demander à celles et ceux qui veulent lui dire « Viens dans ma barque, je t'y invite ». Comme nous l'avons entendu, il ne s'y impose pas, il vous invite. Voici, je frappe à la porte d'un cœur. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Quel respect! Le Créateur des cieux et de la terre qui s'incline à votre volonté. Le Créateur des cieux et de la terre qui vous donne autorité de lui dire entre ou de le laisser. C'est extraordinaire. C'est plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Celui qui a autorité dans les cieux, sur la terre, sous la terre, celui à qui toutes choses ont été soumises est là ce soir. Et mon ami, il te dit, si tu veux, j'entrerai. Parce qu'il ne veut pas bâtir une relation faussée avec toi. Il veut bâtir une relation vraie avec toi. Et il n'y a pas de relation vraie s'il n'y a pas de vis-à-vis. Il cherche des vis-à-vis, des hommes, des femmes, qui lui disent, oui, je veux. Oui, je veux. S'il y a quelqu'un ce soir qui le désire, nos yeux sont fermés, je voudrais prier pour vous. En signe de votre accord, vous levez simplement votre main là, à votre place où vous êtes. Votre main levée signifie simplement, Seigneur, je le désire. Et moi, je veux prier. Prie avec chacun.
Enseigne-moi.com
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.